Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, 8 personnes ont été tuées ce samedi par les rebelles ADF en Dimon, un village situé à 40 km de Komanda sur la route nationale numéro 4, axe Luna, dans le territoire du Rumwanituri. Les activistes des droits de l'homme haussent le ton en appelant les autorités à leurs responsabilités. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, ce dimanche 31 mars, le chef de secteur de Wanyanga, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, appelle les femmes de son entité à l'autoprise en charge et à l'éducation des jeunes filles. Notre invité est le coordonnateur provincial du collectif Maniema sans flamme en slam, un collectif qui regorge de jeunes écrivains dans la ville de Kindu. Djunga Bora Rémi nous parle de la soirée littéraire organisée par ce collectif en marge de la célébration de la Journée internationale de la poésie le 21 mars. Mesdames et messieurs, bonjour. Grâce à Mzati Masanzi est au micro. Annie Touri. Nouvelle tuerie perpétrée par les ADF en Dimon, village situé à 40 km de Komanda, sur la route nationale numéro 4, axe Luna, dans les territoires d'Irumu. 8 personnes, toutes des civils, dont 5 pygmées, sont massacrées par ces rebelles ougandais hier samedi. Une situation qui intervient 48 heures après la mort de 4 personnes, dont un militaire sur le même axe, ce qui porte à 16 le nombre des personnes tuées par les ADF dans la chefferie de Wallace et Vonkutu en l'espace de 3 jours. Des défenseurs des droits de l'homme dans la région déplorent ce qu'ils qualifient d'inaction des forces conjointes FRDC-UPDF pour mettre fin à l'activisme des rebelles sur l'axe Komanda Luna. Martial Kizabiamungu.
Les habitants de Ndjimo, qui avaient encore fraîche à l'esprit la tuerie de 4 personnes, dont un militaire, effardessé la nuit de jeudi à vendredi par des ADF, ont été surpris samedi dans la matinée par des tirs nourris des mêmes rebelles dans les quartiers Ndjimo Koto. Selon des sources locales, outre ces 8 morts, cette attaque a fait également une dizaine de blessés. Non loin de là, dans le groupement Bundingili à Zunguluka, un autre groupe des ADF a également tué 4 personnes. Il s'agit d'une femme et 3 enfants. Enfin, des activistes de défense des droits de l'homme dans cette zone indiquent que ces rebelles ont pris en otage 15 civils pour transporter les butins après avoir incendié 12 maisons. Ils disent être consternés par la montée sensible des attaques des ADF dans la chefferie de Wallace et Vonkutu causant mort d'hommes ces 3 derniers jours. Et cela malgré la présence des forces conjointes et FARDC UPDF en opération dit Oshuja sur l'axe Komanda Luna sur la route nationale numéro 4, disent-ils. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole des opérations, dit Osuja. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Évaluer les besoins pour le cantonnement d'environ 150 combattants du groupe armé dénommé Sarma et leurs dépendants, c'est l'objectif de la mission effectuée vendredi par une délégation mixte PDD-RCS et 22e brigade des FARDC dans la localité de Kampunda à 35 km de Kalemie dans le Tanganyika. D'après une source du PDD-RCS Tanganyika, ces combattants se sont rendus au FARDC pour leur désarmement et démobilisation. Les détails avec Paul Emunanga.
La cellule de communication du PDDRCS Tanganyika précise que c'est depuis le 26 mars dernier qu'environ 150 combattants du groupe armé Sarma, munis d'armes de type AK-47, d'arc et de plus de 200 flèches empoisonnées sont sortis de la brousse. Ils sont accompagnés de plus d'une centaine de leurs dépendants, indique la même source. Les miliciens du groupe armé Sarma, dirigés par leur leader toi dénommé Shabani Kasai Sarma, se sont installés au village Kampunda à 35 km au nord de Kalemie sur la route Bendera en attendant leur désarmement et leur adhésion au processus de DRCS. La délégation du PDDRCS et la 22e brigade des FARDC a visité le site Djimbwe à 18 km de Kalemie sur le même axe routier. C'est pour évaluer les besoins pour le cantonnement de ces combattants. Signalons que 11 autres combattants du même groupe armé se sont rendus le 22 mars dernier au FARDC, au village Kijugwe sur les collines surplombant la cité de Kabimba dans le territoire de Kalemie, rapporte la cellule de communication du PDDRCS Tanganyika. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis, au Nord Kivu, le centre de santé de référence de Bingi dans les territoires de Lubero n'a plus de médicaments. C'est après la prise en charge cette semaine de plus de 50 blessés dont 6 se sont décédés après un accident de circulation survenu au retour d'un enterrement. Cette structure sanitaire tire la sonnette d'alarme dans cette zone peuplée des déplacés de guerre dont les besoins en soins de santé primaire restent grands. Augustin Barou Tikavusa, administrateur gestionnaire du centre de santé de référence de Bingi, exprime son inquiétude au téléphone de Sadiq Aboubakar.
Pour le moment, nous n'avons plus notre stock de médicaments, car tout a été consommé vraiment par ces drames pour essayer de faire tout ce qu'on pouvait faire. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement provincial et national de nous venir en aide pour essayer de reconstituer notre capital de pharmacie. Vous savez qu'il y a aussi un afflux de déplacés qui nous viennent de Rutshuru, de Beni. Nous trouvons que ça ne sera pas du tout bon, que cette structure de référence peut prendre tout ce monde à charge sans stock suffisant à produits pharmaceutiques. C'est pourquoi, chers journalistes, nous lançons ce cri d'alarme pour essayer de faire comprendre à tous ces partenaires-là, personnels de bonne volonté qui nous suivent maintenant, de nous venir en aide pour que aussi nous puissions reconstituer notre stock de médicaments.
Parlons de la clôture du mois de la femme, ce 31 mars, dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. Le chef de secteur de Wanyanga, Descartes Bamwisho, appelle les femmes de son entité à l'autoprise en charge, tout en invitant également les jeunes filles à valoriser leurs études pour leur avenir. Ces chefs administratifs invitent les jeunes filles à suivre l'exemple des femmes cadres de Walikale qui occupent des postes de responsabilité au sein des institutions de la République. On écoute Descartes Bamwisho dans cet extrait choisi par Denise Lukeso.
Si elles aiment les études, refusent de se marier tôt et aiment la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quel homme qui peut l'approcher. Quand tu parles bien ton français, celui qui va t'approcher sera celui qui aura réfléchi 1000 fois avant de te parler. Et il ne va pas te raconter des bêtises. Par le passé, on croyait que la place de la femme, c'est la cuisine seulement. Non. Regardez aujourd'hui nos mamans de Walikale qui nous défendre. Maman Élisée, elle gère les hommes. Maman Machozi, une femme de Walikale, questeur de l'Assemblée nationale. Maman Sabine, Maman Jeanne, toutes étaient des députées. Et donc, les mamans qui s'efforcent dans leurs études ici à Walikale ont beaucoup de chance et exceptionnelles. Cela veut dire, ne vous découragez pas.
Cela veut dire, Moussi fait mourir.
Toujours dans le cadre de la clôture du mois de la femme, nous restons au Nord Kivu. Plusieurs centaines de personnes vulnérables et déplacées de guerre, venues des territoires des Massis et Rutshuru, bénéficient ce week-end de l'assistance de l'organisation caritative Finance Santé pour tous, basée à Goma. Ce geste de charité est salué par les femmes enceintes qui vivent dans une précarité totale depuis leur arrivée dans les sites communément appelés Samsam au quartier Mugunga. Gabriel Ouamenya pour le reportage.
Cette assistance est constituée des habits usagés, des pains, de la farine, du sucre, du savon, des kits hygiéniques et des couches pour bébés. Parmi les bénéficiaires figurent les femmes enceintes, les vieillards et les enfants non accompagnés. Cette femme qui attend sa maternité ne cache pas sa satisfaction.
En tout cas, moi je suis contente pour avoir songé à nous. On n'avait rien. Nous autres, nous nous posions des questions comment nous allons accoucher, mais vous venez de nous aider. Que Dieu vous bénisse et continuer ainsi.
De son côté, l'organisation Finance Santé pour tous justifie cette assistance par la clôture du mois de la femme. Docteur Clarisse Moissy.
Nous, en tant que FSPT, pour clôturer le mois de la femme, nous avons jugé bon apporter notre assistance aux femmes déplacées. Mais on a ciblé les plus vulnérables, entre autres les femmes enceintes, les enfants et les vieillards.
Rappelons que plusieurs familles de personnes déplacées vivent dans une promiscuité totale dans ces sites dépourvus d'eau et d'installations hygiéniques adéquates. Les animateurs de santé craignent l'explosion des diverses épidémies qui peuvent embraser d'autres sites environnants dans les prochains jours. De retour des sites des déplacés de Samsam, de Mugunga, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les femmes du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétintique ont officiellement clôturé hier samedi les activités liées à la célébration du mois de la femme. La cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la FIKIN a été présidée par le secrétaire général au Pétintique, Aurélien Kambansunda, qui a représenté le ministre Augustin Kibasa Maliba. Il s'agissait d'une matinée scientifique consistant à sensibiliser les femmes sur l'impact du numérique dans la parité. Différentes associations des femmes et cadres du ministère des Pétintiques ont pris part à cette cérémonie. Aurélien Kambansunda exprime sa satisfaction à l'issue de cette cérémonie marquant la clôture du mois de la femme dans les secteurs des Pétintiques. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matoki.
Les femmes de Pétentique qui se regroupent dans une association ont souhaité clôturer cette journée par une cérémonie scientifique où les femmes ont été édifiées, éclairées sur l'impact du numérique dans la vie, dans la parité et en rapport avec leur rôle dans leur secteur et dans la vie de tous les jours. C'est un jour mémorable sur le plan universel. Nous pensons que c'est un moment fort pour les femmes de s'approprier leur indépendance, leur liberté, leur autonomie dans tout ce qu'ils peuvent faire dans tous les secteurs de la vie. L'activité a été ponctuée d'un temps fort, c'était d'abord la partie solennelle où on devait suivre le message de la dame, des femmes et le mot de son excellence, monsieur le ministre Augustin Kibasa Madiba, qui a été transmis par son directeur de cabinet. Par la suite, il y a eu des échanges, la partie scientifique donc de la journée, et ça nous a permis de voir un peu les femmes s'approprier leur liberté, de poser des questions, et nous pensons qu'à travers ce type de manifestation, les dames de mon secteur vont suffisamment se sensibiliser, se mettre au pas et agir comme les hommes dans ce secteur.
Autre nouvelle sur Radio Kapi. Le processus électoral en cours a enregistré moins de violences dans le Grand Katanga par rapport au processus précédent. C'est l'essentiel de la première note d'analyse de l'Institut de recherche dénommé Ebouteli, présentée le jeudi à Lubumbashi. D'après un des membres de cet institut de recherche, depuis novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024, il y a eu 18 incidents dans cet espace. Ainsi, les recommandations qui sont faites serviront à améliorer les prochains processus électoraux. On écoute Jacques Mukena, chercheur à Ebouteli, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Dans la région du Katanga, dans Lubumbashi, Kasumbalesa, Kolwezi, Likasi, partout on a pu vérifier, enregistrer les incidents, il y a eu beaucoup moins de violences électorales. Ce qu'on a pu documenter, c'est 18 incidents dans la région du Katanga. Ce sont seulement les incidents qu'on a pu enregistrer, documenter de manière objective et triangulée. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ce sont des incidents qui sont généralement reportés dans les médias. C'est certain que parmi ces incidents qu'on a reportés, il y en a eu beaucoup plus. Mais dans tous les cas, comme on l'a dit, c'est moins que les élections précédentes. Donc le gros des incidents qu'il y a eu, c'est des affrontements entre les partisans des partis politiques. UDPS, Ensemble, Nouvel Élan et même UDAFEC. Parce que nous, on a commencé à collecter depuis début novembre. On a eu beaucoup de cas d'affrontements entre les partis politiques. Il y a bien évidemment eu des décès, mais le gros, c'était des affrontements entre partisans. Nous avons trois notes d'analyse. La première, c'est celle-ci sur le Grand Katanga. La deuxième, ce sera sur Kinshasa. Et la troisième, ce sera sur Goma. Comme nous avons obtenu des recommandations, on va encore les utiliser dans nos propres recherches, mais aussi aller parler aux parties prenantes, parce que nous avons décidé que si on doit améliorer le processus électoral, ce sera maintenant. Donc nous, on a commencé à collecter les données, les recommandations pour améliorer celui de 2028 et tout ce qui va en suivre.
Province de la Tchopo, le nouveau président de l'Assemblée provinciale dévoile sa vision durant cette législature axée sur la stabilité des institutions. Matheus Kangalondimo l'a déclaré ce samedi à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session parlementaire de mars 2024. Une session essentiellement législative et de contrôle parlementaire. Elle s'est ouverte en présence de plusieurs personnalités dont la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba, et bien d'autres invités. Le point avec Jacques Mukonkole.
La stabilité des institutions provinciales est gage de développement de la province de la Tchopo, a dit Mathieu Kangalondimo. Selon lui, cette stabilité est axée sur la responsabilité collective. Celle-ci n'exclut pas le contrôle et implique un travail bien fait de tout un chacun pour la construction d'un bel avenir, a-t-il souligné. Cette session étant essentiellement législative et des contrôles parlementaires, le président de l'Assemblée provinciale interpelle la conscience de ses collègues afin de ne pas décevoir les attentes des population.
Notre population attend du contrôle parlementaire des réponses correctives et concrètes à leur propre quotidien. Nous devons miser sur un contrôle parlementaire axé sur les résultats, avec un accent particulier sur le secteur des finances, où nous veillerons à ce que l'article 203 de notre règlement intérieur soit réellement d'application au travers d'un contrôle trimestriel de l'exécution du budget de la province.
Bien avant, Matheus Kanga a décrié la résurgence de l'insécurité dans la ville de Kisangani, enjoignant ainsi l'autorité provinciale à pouvoir l'endiguer. Il a aussi déploré la vétusté du bâtiment de l'Assemblée provinciale ainsi que la détérioration des routes qui mènent vers cette institution, laquelle ne dispose à ce jour d'aucun véhicule officiel. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Par ailleurs, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC déplore les conditions socio-professionnelles des enseignants et de tous les agents publics de l'État. Le porte-parole de cette structure a exprimé son indignation ce samedi lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Jean Bosco Puna recommande ainsi au prochain gouvernement de la République d'élaborer une politique salariale au profit de tous les agents et fonctionnaires de l'État, y compris des professionnels de la CRE. Il estime en outre que cette politique va sans doute rendre efficientes les différentes réformes enclenchées à travers le pays. Jean Bosco Puna est au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
La synergie des syndicats des enseignants de la RDC rappelle au président de la République que les enseignants de la République attendent voir la matérialisation de son vœu, je cite, de ne pas revenir sur les erreurs du passé et donc en mettant en place une politique salariale digne pour rendre efficiente les différentes réformes enclenchées. Cette politique salariale tiendra compte d'un barème salarial digne, offrant des avantages sociaux pour tous, conformément à l'article 58 de la Constitution, qui revient sur la redistribution équitable du revenu national. L'élaboration d'une politique salariale permettra au gouvernement de la République de faire face à la réforme sur la gratuité de l'enseignement qu'il compte prolonger au secondaire, d'indemniser les enseignants retraités injustement, de rationaliser l'organisation de l'examen d'État en prenant correctement en charge les inspecteurs et intervenants.
Actualité internationale.
Au Tchad, la disparition depuis trois jours de l'une des plus grandes fortunes du pays, Ibrahim Hissène Bourma, faisait grand bruit dans le pays. Finalement, le gouvernement a assuré samedi qu'il avait été arrêté sur ordre de la justice. Vladimir Poutine, qui n'a assisté pour l'heure à aucune cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat près de Moscou, ni rendu visite aux familles ou aux blessés, ressent malgré tout de la peine à assurer le Kremlin. Le chef de l'État se sent personnellement et pleinement concerné par ce genre de tragédie. Croyez-moi, même si vous ne voyez pas des larmes sur son visage, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, a déclaré le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, dans une courte interview diffusée samedi 30 mars, rapporte l'AFP.
L'invité.
Il s'agit de Djunga Bora Remy, coordonnateur provincial du collectif Maniema sans flamme en slam, un collectif qui regorge de jeunes écrivains dans la ville de Kindu. Il nous parle de la soirée littéraire organisée par ce collectif en marge de la célébration de la Journée internationale de la poésie le 21 mars. Djunga Bora Remy s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur Djunga Bora Remy, bonjour.
Bonjour, journaliste.
Une soirée littéraire, dites-nous, qu'est-ce qui justifie l'organisation d'une telle activité dans la province du Maniema?
La soirée littéraire, c'était à l'occasion de la Journée internationale de la poésie, célébrée chaque le 21 mars de chaque année. Et nous avions émis les vœux pour un grand concours slam poésie. C'était 12 candidats que nous avions considérés. Et tous les 12 candidats sont passés par une compétition. Parmi eux, nous avions eu 3 qui ont été sacrés. D'abord, le premier était Poutchou Abeli, les bons. Et le deuxième, c'était Louise Mpala. Et le troisième, c'était Mwimba Wamwimba Lik. Tous les 3 candidats ont eu chacun les ouvrages littéraires comme prévu par l'organisation, le collectif Maniem sans flamme en slam. Et c'est sous l'appui de l'ICSN, de la journaliste canadienne Jennifer Bakodi, qui était la chef de station de la radio Kapi Kindu lors de la période de la transition. Mais aussi, c'était sous le thème « Je protège le parc de la Lomami et ses espèces endémiques ». C'était une occasion pour nous de faire montre aux candidats de s'approprier le parc, parce que le parc parfois est considéré comme un truc de l'ICSN, pendant que c'est un truc de toute la population du Maniema, toute la population de la République démocratique du Congo.
Poésie et parc national de la Lomami, quelle est la relation, M. Djunga Bora?
En fait, poésie et parc de la Lomami, parce que il faudrait partir par un problème. Nous avions constaté que le parc national de la Lomami est très moins connu dans les chefs de la population du Maniema. Alors que nous avons la poésie qui éduque la communauté, c'est à travers les mots que nous avions émis le vœu de faire ce concours pour que le jeune puisse s'approprier de ce parc.
Et les objectifs poursuivis de votre activité?
La ville de Kindu, comme je l'ai toujours dit, c'est une ville qui est un peu réputée par des affrontements de jeunes qui font couler même de sang. Alors, notre objectif, c'est transformer ces affrontements de jeunes qui font couleur de sang aux affrontements des mots, à une guerre orale C'est pourquoi nous avions voulu organiser ces grands concours pour montrer à la communauté s'il y a de jeunes qui se plongent dans des futilités, qui se plongent dans des banditismes. Il y a aussi des jeunes qui préparent leur avenir dans la vie de Kindu. C'est dans trois principes fondamentaux, lesquels nous permettent d'arriver à notre résultat définitif. Et ces trois principes fondamentaux, le premier c'est la lecture, deuxièmement c'est l'art oratoire, et troisièmement c'est écrire. Les textes que vous venez de voir, ce sont les textes écrits par les candidats eux-mêmes. Je protège le parc de la Lomami et ses espèces endémiques.
Est-ce une activité régulière ou ponctuelle?
En fait, pour cette année, nous sommes à la troisième édition. Nous avions commencé ce projet depuis 2012, toujours appuyé par Jennifer Wakor. C'est pourquoi même l'intitulé, c'est « Les concours slam à milliers de jeunes, prix Jennifer Bakodi ». C'est elle qui nous a donné ce goût de commencer avec ce système dans la vie de Kindu, parce qu'elle a vécu trop dans la province du Maniema. Nous sommes actuellement à la troisième édition.
Monsieur Djungabora Rémy, quel est l'état de lieu de la poésie et d'islam dans la province du Maniema aujourd'hui?
En fait, l'état des lieux de la poésie dans la province du Maniema, je dirais, la poésie bat son plein. Bat son plein parce que quand nous avions débuté, je vais vous dire, madame la journaliste, que le Maniema, c'est le berceau de l'islam. Alors que notre souci, nous voulons que le Maniema soit le berceau d'islam et d'islam. Quand nous avions commencé, les gens faisaient des confusions entre l'islam et l'islam. Alors que l'islam c'est une religion et l'islam c'est la poésie orale. Actuellement nous avions commencé, c'était difficile, mais pour le moment ça commence à battre record. Dans des écoles, à l'université, partout, on ne pouvait en aucun cas faire une soirée sans qu'on y mette la poésie, sans qu'on ajoute l'islam. Donc c'est une fierté pour nous. Nous avions commencé ces styles poétiques difficilement, mais actuellement, quand nous organisons des concerts de mots, c'est plein de monde qui arrive et nous en sommes fiers.
Monsieur Djungabora Rémy, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur provincial du collectif Maniema sans flamme, en slam, Djungabora Rémy, était interrogé par Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwanama Kengon Swalou. Vous pouvez retrouver ces radiojournal sur www.radiocapi.net. Merci.